podcast festival à la Gaîté Lyrique. Les débats.
Bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette table ronde en partenariat avec l'INA. Donc on va parler d'archives, notamment sonores, et surtout on va parler de comment faire parler les archives. Donc pour ça, autour de cette table, je suis avec Léa Weinstein. Bonjour.
Bonjour.
Donc tu es philosophe, documentariste, autrice des podcasts Mémoire de la Shoah et notamment de la première saison, si on peut appeler ça une première saison, Seul l'espoir apaise la douleur, autour du témoignage de Simone Veil.
Oui.
Ben, merci d'être là. À côté de toi, Mathilde Dureau. Tu me disais que tu étais responsable des documentalistes et pas responsable documentaire, comme c'était écrit sur la slide. Donc tu nous expliqueras en quoi ça consiste, Alina.
Oui, tout à fait.
Bonjour. Et Antoine Baillet.
Bonjour.
Directeur éditorial de l'INA. Ben, merci beaucoup d'être là. Pour commencer, j'ai une question peut-être bête, mais qui me paraît importante. C'est quoi une archive ? Mathilde, est-ce que tu veux nous répondre ?
Ah, c'est une très belle question. L'archive, c'est la trace d'une mémoire. Et pour l'INA, c'est la mémoire audiovisuelle, qui est vraiment l'ADN de l'INA. Et en 1975, l'État a confié une mission importante à l'INA, qui était de conserver, sauvegarder et communiquer les émissions qui étaient produites et diffusées par les chaînes de télévision publiques, ainsi que la radio publique française. Donc c'est une mission qui existe depuis près de 50 ans. Dans nos fonds, on a des fonds qui datent des années 30 pour la radio et des années 50 pour la télévision. Et c'est un fonds qui continue d'être alimenté, puisqu'il y a le flux quotidien de ce qui est produit à la télévision et à la radio. Et puis aussi l'INA a des politiques d'acquisition de fonds, donc c'est un fonds qui devient énorme.
Donc au-delà de la radio et de la télé publique, on vous confie d'autres archives ?
Exactement. L'INA se positionne aussi comme un expert de l'archivage, de la numérisation aussi en termes de valorisation. Et cette expertise permet de contracter des contrats avec des mandataires, pour des dépôts de fonds aussi. Donc l'INA en charge prend précieusement ses fonds à sa charge et puis après les communique.
Et alors concrètement, ça ressemble à quoi ? Est-ce qu'il y a une cave secrète avec des bobines ou est-ce que c'est des gros serveurs avec des fichiers numérisés ?
Il y a tout ça. L'INA, c'est des millions de supports, puisqu'on a collecté depuis le tout début des supports films, des disques, des bandes magnétiques. Jusque dans les années 2000, c'était des supports physiques qui étaient conservés à l'INA. Et puis, à partir des années 2000, c'est l'ère du numérique. Et d'ailleurs, l'INA a été assez visionnaire par rapport à la numérisation et au numérique. Dans les années 2000, elle a décidé de se lancer dans un grand plan de sauvegarde et de numérisation de ses archives, parce que les supports commençaient aussi à se dégrader. Le numérique arrivait, et il fallait aussi se positionner dans l'objectif aussi de mettre à disposition ces archives. Donc il y a un grand plan qui a été lancé dans les années 2000 et qui est quasiment achevé. 20 ans après, on peut dire que 90% des supports physiques radio ont été numérisés, donc sauvés, et 100% de la télévision. Donc c'est vraiment c'est ceux à partir desquels on travaille. Donc il y a des data centers qui ont tous ces fichiers numérisés qui nous permettent, nous, documentalistes, de travailler, ainsi que la direction éditoriale. Et on peut mettre ensuite à disposition ces fichiers, soit sur des plateformes à destination des professionnels, comme INA Media Pro ou Media Clip, soit sur les offres grand public pilotées par la direction éditoriale, donc le site INA.fr, les réseaux, YouTube.
Madeleine,
exactement. Et puis pour les chercheurs aussi, parce que c'est une énorme communauté qui vient consulter nos fonds, donc notamment à l'INATEC de France au sein de la BNF, et puis dans les antennes régionales de l'INA.
Combien d'heures d'archives, notamment audio, vous avez, Antoine ?
Aujourd'hui, l'INA, c'est 30 millions d'heures en stock. 30 millions d'heures, ça comprend tout y compris des choses qui nous sont confiées au titre de cette merveilleuse invention française qui est le dépôt légal, qui remonte à 1537 et François Ier et qui concernait l'écrit à l'époque. Parmi les heures qui sont effectivement exploitables, sur lesquelles il y a des droits, c'est une petite partie de ces 30 millions d'heures, puisqu'on a à peu près 2 millions d'heures qui sont exploitables. La radio, les fonds audio représentent 20% à peu près de ces fonds, je pense. Je vais rebondir sur la première question, sur qu'est-ce qu'une archive, ouais. Parce que ce n'est pas du tout une question si bête que ça, au contraire. Et je vais compléter ce que Mathilde disait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait archive pour demain? Parce que là, on a parlé de ce que sont les fonds aujourd'hui, mais comment on collecte aujourd'hui ce qui fera mémoire demain? Eh bien, des chaînes YouTube, aujourd'hui, on en collecte parce que c'est ce qui fera mémoire demain. Des podcasts natifs, je le dis à dessein au Paris Podcast Festival, c'est aussi des choses qui, d'une manière ou d'une autre, doivent être captées aujourd'hui pour demain faire mémoire, etc. Et donc, c'est vraiment aussi quelque chose qui doit être revisité. Cette notion même d'archive est assez...
C'est toute trace audiovisuelle laissée, et vous continuez à les collecter, en fait.
Qu'il faut aller collecter, qu'il faut aussi, de manière assez proactive, créer potentiellement. On va revenir sur ce travail qui a été fait, par exemple, autour du témoignage de Simone Veil, qui a été recueilli donc en 2002, dans une démarche où l'INA est allé susciter la mémoire en organisant des grands entretiens. C'est quelque chose qu'on fait encore aujourd'hui. On a enregistré cette semaine un grand entretien avec Edgar Morin, parce qu'on veut lui permettre de raconter sa vie dans son intégralité, et on pense que c'est quelque chose qui, demain, fera mémoire. Donc c'est ce qu'on capte, et c'est aussi ce qu'on crée de manière proactive pour demain.
Oui, vous faites des appels à témoignages aussi sur des sujets de société. Récemment, sur l'avortement, j'ai vu sur les réseaux sociaux, donc vous demandez à des femmes de témoigner.
Absolument, on cherche à raconter ce qu'était la France d'avant la loi Veil, et donc comment on avortait en France avant la loi Veil. Donc là, à la différence d'un entretien avec Edgar Morin, qui a un regard intellectuel sur les choses, on va chercher des témoignages d'acteurs, qu'elles soient femmes ayant avorté, qu'elles soient médecins ayant accompagné, etc. etc. Ça, c'est une manière évidemment de collecter la mémoire. Ce sera aussi évidemment quelque chose qu'on va exploiter sans trop m'avancer. Je pense pouvoir dire qu'à un moment ou un autre, à partir de ces témoignages de femmes et de « c'était quoi la France avant la loi Veil ?», à un moment ou un autre, il y aura sans doute un podcast qui sera créé à partir de ça, mais on n'en est pas encore là. Là, on en est au stade où on initie la collecte de cette mémoire. Donc rendez-vous dans je ne sais pas combien de temps pour parler de ce podcast-là, peut-être, ou de cette production, ou de ce documentaire-là qui sera créé à ce moment-là.
On va parler des podcasts que vous avez lancés il y a 8 mois, d'abord. Peut-être, Léa, avant, ton point de vue de philosophe sur la question des archives, comment tu pourrais définir ça?
Je vais rebondir plutôt sur l'INA, en fait, sur ce que tu disais concrètement, ça ressemble à quoi, c'est quoi comme espace, en fait, quel est l'espace concrètement où les archives sont accumulées, sont sauvegardées, sont gardées. Moi, depuis que je travaille donc pour Mémoire de la Shoah, donc on a fait d'abord Simone Veil, Seul l'espoir apaise la douleur. Et puis là, on poursuit avec d'autres témoignages qui font partie de la même collecte d'origine. Donc à chaque fois que je vais à l'INA, j'ai vraiment l'impression de faire un espèce de voyage. L'INA, c'est à Brie-sur-Marne. Et c'est une planète en soi, quoi, quand on arrive. Et parce qu'on voit ces locaux où on se dit... enfin, en tout cas, moi, personnellement, je me dis « Ouais, c'est là, quoi. c'est ça. » Concrètement, c'est ici qu'il y a ces bobines, c'est ici que sont gardées les choses. Donc j'ai l'impression qu'une archive, c'est d'abord ce truc concret qu'on a pu sauver, en fait. Et puis c'est un espèce de rêve pour l'homme, parce que c'est le rêve de quelque chose où il n'y a pas d'oubli. C'est le rêve d'une espèce de cerveau hypermnésique qui peut tout retenir, donc c'est à la fois génial et très, très effrayant, quoi. Ouais. Voilà.
Et alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, l'archive sonore? Parce que toi, dans ton travail, tu travailles avec tout type d'archives, papier, vidéo. Qu'est-ce que le sonore, qu'est-ce que ça a de particulier?
Alors moi, je crois beaucoup dans les voix. Et j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce qui s'est passé, je pense, avec Simone Veil. Donc Simone Veil, à l'origine, c'est une collecte de témoignages un peu comme celle qu'Antoine vient de décrire, initiée par l'INA et la Fondation pour la mémoire de la Shoah au début des années 2000. J'y reviendrai peut-être sur le contexte dans lequel... Mais c'est un entretien, donc puisqu'on parle de la forme, c'est un entretien vidéo, filmé, sur un fond uni, qui est le même pour tous les gens, la centaine de personnes qui vont venir témoigner et qui vont répondre aux questions d'un intervieweur qui a été choisi par l'INA et la FMS. Donc c'est une image à l'origine. Nous, ici, on essaye de transformer ça en un podcast. Donc on va extraire le son seul et on va... enlever l'image. Donc moi, quand j'ai travaillé, j'ai d'abord regardé l'image et ensuite j'ai travaillé très vite à partir du son seul parce que je me suis rendu compte que c'était pas du tout pareil. Et je pourrais y revenir peut-être tout à l'heure, mais une des choses très très puissantes dans cette expérience-là que j'ai vécue avec Simone Veil, mais que je pense qu'on peut vivre avec d'autres formes d'archives, c'est la présence de la voix. C'est-à-dire que quand vous avez sa voix seule dans l'oreille, vous avez vraiment ce lien direct à une présence très très forte et une adresse en fait. Vous avez un lien qui se crée très, très subjectif à la voix que vous entendez. Et je ne sais pas pourquoi, mais à l'image, ce n'est pas pareil.
Bah, en fait, on a envie de l'entendre maintenant. Donc on avait prévu ça après. Mais est-ce qu'on peut passer l'extrait numéro 5, qui est la bande-annonce, 5 ou 4, alors attends que je ne me trompe pas. 4, INA, Simone Veil, la bande-annonce, c'est l'extrait numéro 4.
C'est au milieu de la nuit, oui, il doit être, je sais pas, minuit, 1h du matin, enfin, le train s'arrête brusquement, très vite. Les portières s'ouvrent puisque ce sont des wagons à bestiaux. Des gens en pyjama rayés qui se précipitent, qui nous font sortir très vite, les aboiements de chiens.
L'INA vous invite à découvrir le podcast original Simone Veil, Seul l'espoir apaise la douleur. Réalisé à partir d'un témoignage exceptionnel, resté inédit jusqu'à aujourd'hui.
Il y a le tatouage. Le tatouage, ça ne fait pas mal. Mais enfin, on se dit, si on est tatoué, c'est qu'on n'est plus considéré comme des numéros, mais surtout, c'est qu'on n'est pas destiné à sortir d'ici.
Rendez-vous sur l'ensemble des plateformes d'écoute pour découvrir ce podcast événement.
Ce qui frappe, je trouve déjà, c'est que Simone Veil, on en a tous une image et qui est plutôt liée à sa prise de parole sur la loi sur l'IVG. Et là, c'est pas du tout le même son de voix. Et puis, on n'a pas le corps avec. Comment toi, tu t'y es pris pour re-raconter cette histoire ? Parce qu'il y a un côté aussi qui doit être assez intimidant, quoi. C'est-à-dire, c'est Simone Veil. Donc, on t'est face à un monument, t'as 4 heures d'entretien. Comment tu remets ça en récit pour en faire un podcast qui dure moins de 2 heures au final ?
Oui, qui est en 4 épisodes, qui durent un peu moins de 30 minutes chacun. Bah oui, c'est très intimidant parce que c'est elle, bien sûr, et qu'on a envie de l'écouter sans évidemment intervenir sur la matière. Mais aussi parce que c'est cette mémoire-là. C'est un témoignage particulier. On est à la fin de sa vie. Elle est en train d'écrire son autobiographie. Elle n'est plus femme politique à ce moment-là. Et d'ailleurs, dans l'enceinte du studio de l'INA ce jour-là, elle est tout sauf une femme politique. On est vraiment face à une autre voix. Et on l'entend dans sa voix, d'ailleurs. Ce n'est pas du tout, comme tu dis, la voix de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas la voix qu'on connaît. Et c'est pas, pour le coup, l'image dit ça aussi. Son visage est assez différent aussi, je pense. En fait, ce qui est très... aussi intimidant, pour rebondir encore une fois sur ce mot, c'est que du fait que ce soit ce témoignage-là sur son arrestation, sa déportation et son retour, que ce soit centré là-dessus et que nous, en plus, on ait fait le choix éditorial de vraiment nous concentrer là-dessus, parce que au début de l'entretien intégral, elle parle de son enfance, de sa famille, de à quel point elle n'a pas grandi dans la religion juive, de comment elle a été élevée, de ses sœurs, etc. Nous, on a vraiment choisi de centrer, de commencer à l'arrestation. Donc elle a 16 ans quand elle est arrêtée. Et pour revenir à la question des collectes de témoignages, on est au début des années 2000 et dans l'histoire des témoignages de la Shoah, c'est une période importante parce que il n'y a pas que Lina qui, à ce moment-là, initie ces efforts-là. Les déportés, pendant très longtemps, comme vous savez, n'ont pas parlé. Et certains, dont Simone Veil d'ailleurs, n'ont commencé à parler que dans les années 80, voire 90. Pourquoi est-ce qu'ils commencent à parler à ce moment-là ? En réaction à une vague de négationnisme. En fait, le phénomène apparaît à la fin des années 70, au début des années 80, avec Robert Forisson, dont vous avez peut-être entendu parler, et une tribune. Robert Forisson, c'est un intellectuel, un professeur d'université, un historien, qui va faire une tribune en disant à Auschwitz, on a gazé, oui, on a gazé des poux. C'est là que commence ce phénomène qu'on va appeler le négationnisme, le révisionnisme, etc. On est en 1979. Beaucoup de déportés vont prendre la parole en réaction à ça. Et le témoignage va devenir, va acquérir, si vous voulez, cette dimension historique, politique, de réponse. Ils deviennent, en fait, à eux-mêmes des preuves vivantes. On montre le tatouage. Pourquoi on montre le tatouage ? Parce qu'on répond à ça. On veut prouver ça. Et donc, à ce moment-là, se fait jour la prise de conscience qu'il faut collecter leurs paroles et qu'il faut la garder. Je ne parle même pas de l'éducation, etc. Il faut juste collecter leurs paroles. Donc, il y a, par exemple, Spielberg, qui, aux États-Unis, va aussi initier une grande collecte, etc. Et à ce moment-là, il est décidé, et Lina va reprendre cette règle-là, il est décidé que ces témoignages dureront le temps qu'ils dureront et qu'ils seront en aucun cas coupés, qu'il n'y aura aucun montage de fait.
C'est la parole, juste la parole, c'est pas éditorialisé.
C'est la parole, juste la parole. Et quand, à l'époque, on est aux bobines, par exemple pour la campagne de Spielberg, quand on doit changer la bobine, parce que ça fait déjà 4 heures et qu'il n'y a plus de place, une autre caméra filme le changement de bobine pour que rien ne soit retiré du moment du témoignage brut. Donc moi, quand j'arrive en 2022 face à cette parole, non seulement c'est Simone Veil, non seulement c'est la Shoah, mais je suis face à une matière qui a été pensée pour pas être coupée, en fait. Donc c'est ça qui est très compliqué au
départ. C'est la tâche impossible. Mais alors, comment tu t'y es pris ? Parce que, pour autant, pour la rendre accessible, cette parole, on ne peut pas balancer 4 heures d'entretien si on veut toucher le plus grand nombre. Et puis, il y a aussi la question de la mise en récit, au-delà de la mise en contexte, pour que ça devienne accessible. Donc, comment tu t'y es prise pour reconstituer tout ça ?
Après, une fois qu'on accepte l'idée qu'on va transformer la matière et qu'on va en faire autre chose, et effectivement, je pense qu'on est tous guidés, et je ne suis pas toute seule à fabriquer le podcast, bien sûr, par l'idée qu'on va raconter une histoire pour pouvoir toucher un public et puis utiliser cette puissance de la voix dont on parlait un peu avant, cette puissance de l'archive aussi, qui aujourd'hui intéresse beaucoup les gens. Et puis, donc... moi, je vais jamais couper. En fait, je vais garder la trame de son récit à elle, qui est déjà à l'origine tout à fait construit et qui se tient très bien. Donc, on va juste couper à l'intérieur, sans jamais faire un montage où on va inverser des.
Tu déplaces pas les.
Je déplace pas. Je garde, mais je coupe à l'intérieur pour me concentrer sur la déportation et la première personne, parce qu'il y a aussi beaucoup de moments où elle va parler, notamment de sa vocation politique, ses conceptions sur l'Europe, la question de la réconciliation, etc. C'est très intéressant, mais nous, on s'est concentré sur le témoignage à la première personne, et c'est ça qui va guider les coupes. Et puis après, il y a les micros qu'on va ajouter.
La musique.
Et la musique de Michael Lio, qui, est, voilà, qui fait énormément, qui fait beaucoup, ouais. Je pense. Ouais, et qu'il en soit remercié ici. Et puis bon, on s'appuie sur elle, quoi. Je veux dire, elle est elle a une parole totalement détachée de toute injonction. Elle a une parole complètement libre, y compris sur ce sujet-là.
Oui, donc ça tient aussi à la personne, c'est-à-dire que
on met ça en valeur, en fait, c'est tout, quoi. C'est
voilà. Est-ce que vous diriez que c'est un travail d'auteur ce qu'a fait Léa, ou un travail d'accompagnant?
Il n'y a aucun doute, c'est un travail d'auteur qui a été fait. Et juste pour faire un peu de making-of et dézoomer aussi du produit podcast, en fait, si je reviens sur ce témoignage, donc vous l'avez entendu dans le trailer, il a longtemps été inédit. Tout simplement parce que Simone Veil n'avait pas forcément souhaité, lorsque ça a été enregistré, que ce soit diffusé. Il y a eu beaucoup d'échanges là-dessus. On est à peu près certain aujourd'hui que c'est parce qu'en fait, elle ne voulait pas que son témoignage écrase celui d'autres participants à la collecte qui étaient diffusés et qui étaient plutôt des anonymes. Donc elle ne voulait pas, elle, prendre toute la lumière. À sa mort, on a échangé, je le dis d'autant plus que je ne travaillais pas encore à l'INA à l'époque, il y a eu assez vite ce réflexe d'aller voir les enfants de Simone Veil, de les confronter et de leur faire découvrir ce témoignage. Ils nous ont tout de suite dit, débrouillez-vous comme vous voulez, mais faites-le rayonner le plus largement possible. Évidemment qu'il faut le diffuser, et chère INA, débrouillez-vous comme vous voulez, mais voilà, faites-le rayonner le plus largement possible. Et donc en fait, le moment où on a diffusé le podcast, c'est aussi un moment où on a exploité, en lien avec France Télévisions, ce témoignage dans un 13h15 le dimanche, donc au long cours, qui avait été réalisé par Hélène Lamtrong chez France Télévisions. C'est un moment où on a diffusé aussi ce témoignage en livre. C'est une coédition INA Flammarion qui a été très grand succès de librairie. Et donc, j'ai aucun doute sur le travail qui a été fait par Léa, puisque au même moment, le travail était fait aussi. Mais nous, on n'a pas imposé que le récit soit le même en podcast, en 52 sur France Télévisions ou dans les livres. Évidemment, c'est tout, dans toutes les formes d'exploitation, ce que disait Léa sur, on a évidemment concentré sur le témoignage de la déportation et du retour, de l'arrestation, de la déportation, du retour, et beaucoup moins sur la fin de l'entretien, qui était beaucoup plus politique. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, l'entretien a été réalisé en deux fois. Et la première fois, il y a exactement ce que tu décris de Simone Veil qui se livre de manière beaucoup plus inattendue par rapport à d'autres témoignages. Et la deuxième fois, elle revient sur des sujets beaucoup plus politiques et c'est un témoignage qui a presque un peu moins de valeur. Voilà, c'est assez intéressant sur le making-of. Et pour que tous les crédits soient rendus à tout le monde, l'entretien est mené par Catherine Bernstein, qui est une documentariste, qui accompagne Simone Veil vraiment très bien dans ce récit. Voilà, un produit un enregistrement de 2002, qui pendant un temps est gardé non diffusé, et puis à un moment, en fait, on se dit, qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va le diffuser le plus largement possible. Et là, on a besoin de créativité, d'idées sur tous les supports possibles à ce moment-là.
J'ai une petite question technique, parce qu'il y a des mixeurs aussi qui ont travaillé sur ce podcast. Et là, on n'entend pas beaucoup dans la bande-annonce, mais quand vous écoutez le podcast, on entend les bruits de bouche de Simone Veil. Et en fait, ça, c'est des choses qu'on n'entend pas forcément dans les podcasts actuels. On a tendance à les couper. À l'image, on ne les entend pas parce qu'on la voit. Et là, juste à la voix, on les entend vraiment. Pourquoi vous n'avez pas coupé les bruits de bouche de Simone Veil? Qu'est-ce qu'ils nous disent, quoi? C'est ça la question derrière.
Alors, je parlerai plutôt, si tu permets, des silences de Simone Veil. Non, en tout cas, la question des silences, et donc parfois accompagnée de bruits de bouche, c'est vraiment posé, a été une des premières questions qu'on s'est posées avec Thomas Harbé, que je salue aussi. De l'INA, non, qui est le producteur okay. De l'INA, voilà. Et en fait, la première fois quand il m'a parlé de ça, il m'a d'abord envoyé la vidéo Et j'ai d'abord commencé à regarder la vidéo. Et puis ensuite, je me suis dit, non, faut que j'écoute le son pour savoir ce qu'on va pouvoir en faire. Et j'avais pas du tout remarqué dans la vidéo qu'il y avait autant de silence. Alors qu'au son, c'est ce que je disais à Thomas très vite, je disais, mais je rappuyais sur mon téléphone parce que j'avais l'impression que le truc s'était arrêté, quoi, tellement les silences étaient audibles. Parce que bien sûr, vous avez le support du visage et des expressions à l'image que vous n'avez plus au son, et donc ça crée comme un trou dans le chemin, quoi. Ça, voilà. Donc il fallait pas qu'on perde les auditeurs non plus. Le but étant qu'ils reproduisent pas mon geste sur leur téléphone en écoutant. Et en même temps, évidemment, ça fait partie intégrante du témoignage et de sa nature, et ça dit autant que certaines de ses phrases. Et c'est là où on a travaillé pour le coup avec le mixeur sur la question des bruits, parce que un silence de radio pour pouvoir en faire entendre aux auditeurs les différentes natures, vous avez des silences de larmes, vous avez des silences de réflexion, d'hésitation, de regard dans le vide, et ça, encore une fois, à l'image, vous le caractérisez tout de suite. Comment faire au son? C'est là où on a besoin des bruits de bouche. Et donc, on a essayé de donner juste ce qu'il fallait à l'auditeur pour qu'il puisse comprendre la nature de chacun des silences. On en a parfois réduit.
Mais vous n'avez pas rajouté. Il n'y a pas eu d'émotion à ajouter. Ça, c'était pas la peine. Peut-être qu'on peut parler des autres podcasts. D'ailleurs, on va voir si on appelle ça podcast à chaque fois. Enfin, de l'offre de Lina au global, qui a donc été lancée en février dernier, autour de plusieurs programmes. Donc, on a des programmes hebdomadaires, La vie d'avant, qui mettent en contexte des témoignages d'anonymes du siècle dernier. Les archives du crime, là on est dans le true crime, des grandes affaires criminelles, mais avec des témoins de l'époque. Et puis Écho, des témoignages de grandes figures, de grands penseurs du XXe siècle. Là c'est les programmes hebdomadaires. Puis on a aussi des fictions, ce qu'on appelait des dramatiques radio des années 50 et 60. C'était un genre très important que vous avez remis au goût du jour. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur comment ont été choisis ces programmes-là? Parce que dans les 30 millions d'heures d'archives, comment on en vient à cette offre-là?
Je vais laisser Mathilde raconter une fois, peut-être que je reprendrai sur les concepts des podcasts, mais sur comment on fait pour trouver. Donc, par exemple, sur cette série, sur ce podcast qui s'appelle La vie d'avant, qui était un souhait de notre part de permettre à un auditeur de comprendre comment c'était avant. On fait toujours très attention à être dans le comment c'était avant, pas c'était mieux avant. On laisse la nostalgie plutôt à d'autres. Voilà. Enfin, on cherche clairement à s'éloigner de cette partie-là. On a aussi cherché... C'est intéressant parce que là, on se parlait de liens entre vidéo et audio. Le point de départ du podcast La vie d'avant, c'est le succès d'une de nos chaînes YouTube qui s'appelle Ina Société, qui raconte comment c'était la vie avant, avec des petits reportages montés, contextualisés, évidemment. Et ce ressort, cette question de permettre à des jeunes d'aujourd'hui de comprendre comment c'était avant, on voulait faire la même chose avec la vie d'avant. C'était le point de départ. Podcast hebdo, effectivement, on a cherché à ce que ce soit des témoignages à la première personne. Et alors là, sur le secret de comment on fait pour les trouver, Mathilde.
Là, c'est Mathilde.
C'était une belle enquête dans les fonds de Lina. Donc, trouver des anonymes, les personnalités, c'est sûr qu'on les identifie plus facilement. Et là, c'est tout le savoir-faire des documentalistes qui ont une base de données remplie de notices, plus ou moins bien documentées.
Mais que vous continuez à documenter.
Qu'on continue à documenter. D'ailleurs, quand on a numérisé les fonds de la radio, il y a plus d'un tiers des notices du fonds radio qui ne sont pas du tout documentées, qui ont quelques titres. Et donc, en fait, ça nécessite énormément de temps de déruchage. Donc, les documentalistes qui ont cherché ces contenus ont eu beaucoup d'échanges avec l'équipe édito, Zoé Macheret, Laetitia Fourmont, pour avoir en tête vraiment ce qui était attendu sur le podcast, donc témoignages d'anonymes, des choses un peu plus légères. Le public qui était ciblé, c'était plutôt des jeunes, donc des choses qui parlent, des souvenirs que peut-être nos parents, grands-parents nous ont racontés, donc essayer de trouver un peu une mise en onde de ces souvenirs-là. Donc ça a été une balade sonore dans ces fonds, et donc à travers des thématiques. Ils ont croisé avec plein de critères et en fait, les fonds de la radio, tous les genres sont représentés, hein, aussi bien des entretiens que des magazines de reportage. Très vite, ils se sont aperçus, par exemple, que les micro-trottoirs, c'était pas du tout, c'est des anonymes, mais c'est pas du tout intéressant parce que on laisse pas la parole.
C'est très court.
C'est trop court. Ils ont repéré aussi des journalistes qui étaient plutôt très bons dans le fait d'aller chercher l'anonyme et de laisser la parole se libérer. Il y a aussi des grandes collections qui ont émergé ou d'entretiens. C'est vrai que l'émission de Radioscopie avec Jacques Chancel, qui a interviewé aussi des anonymes, était très intéressante aussi à les analyser, parce que même si c'est très cut dans sa façon de poser les questions, il a quand même le sens de la formule et il arrive à faire dire des choses hyper intéressantes. Et on a un témoignage d'un tatoueur c'est vraiment un régal de l'entendre. Et d'ailleurs, ce tatoueur, on le retrouve aussi sur la chaîne YouTube Ina Société. C'est un des gros cartons de cette chaîne-là.
Donc ça fait écho à des tendances de société d'aujourd'hui.
Exactement.
Aussi,
voilà. Les documentalistes avaient en tête un peu tous les, voilà, les thématiques un peu dans l'air du temps, comment ils allaient chercher. Et donc, voilà, c'est un travail très long. Et après, il faut écouter. Ils passent des jours à écouter, dérocher, se mettre à la place de l'auditeur pour essayer de voir si ça colle ou pas. Et on avait aussi cette possibilité d'aller farfouiller dans les fonds de la télé. Mm-hmm. Et là, c'est un autre exercice. C'est un peu comme Léa expliquait. Il faut limite fermer les yeux pour voir si le son capté par le journaliste télé pouvait rendre quelque chose uniquement avec le son. Donc ça aussi, c'était une démarche assez particulière et passionnante.
Peut-être on peut en écouter un extrait. Donc c'est toujours pas l'extrait numéro 1, c'est l'extrait numéro 2. Donc on va écouter Madame Barral qui nous raconte sa première fois dans le métro, le jour d'ouverture du métro en 1900.
Salut, c'est Clara de l'INA. Cette semaine, dans la vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Madame Barral. On est en 1955 et elle nous raconte une aventure qui a marqué sa jeunesse. Sa première fois dans le métro. C'était en 1900. Cette année-là, les Jeux Olympiques étaient organisés au Bois de Vincennes. Et pour l'occasion, la première ligne du métro parisien venait d'ouvrir.
Madame Barral a été de ces curieux ou de ces courageux et qui ont pris le métro le jour même de son inauguration, n'est-ce pas ?
Courageux, oui, parce qu'il courait dans Paris des bruits terrifiants, que les voûtes devaient dégringoler, qu'il y aurait des accidents affreux, et très peu de Parisiens se sont risqués ce jour-là, justement parce qu'ils avaient un peu peur.
Vous rappelez-vous la date de l'inauguration ?
Le 19 juillet. C'était le jour de mon anniversaire, monsieur. C'est pour ça que je me rappelle si bien.
Où avez-vous pris le métro ? À quelle station ?
À l'hôtel de ville, monsieur. Nous étions toute une bande de jeunes qui étaient venus déjeuner chez moi et nous avons été jusqu'à l'hôtel de ville. Nos parents nous avaient défendu expressément de le prendre, mais comme nous avions avec nous les cousins qui arrivaient d'Amérique, ils nous avaient soufflé le vent de l'indépendance américaine. Nous étions sortis tous ensemble et nous avons pris le métro à l'hôtel de ville. Je vous avoue qu'il faisait un temps splendide ce jour-là, en descendant dans ces voûtes qui étaient glaciales, toutes sombres. Nous n'étions pas très fiers. Le quai était noir, il y avait fort peu de lumière, et le wagon est arrivé, il n'y avait personne. Nous avions pris les premières, naturellement, je crois que ça coûtait 25 centimes, et nous étions les seuls. Nous étions à peu près 7 ou 8 de la même famille, et nous avons été jusqu'à Vincennes. Alors, en voyant le ciel bleu, en sortant dans ce bois de Vincennes si beau, nous avons poussé un soupir de soulagement en disant « Mon Dieu !» Le soleil est tout de même plus beau que la cave. C'était une véritable cave.
Elle raconte bien, Madame Barral. Elle a des images. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que ça a été enregistré en 1955, mais elle nous ramène à 1900. Donc on est encore en train de remonter dans le temps. Tu me disais, Mathilde, en préparant la table ronde, que les voix d'anonymes vieillissaient moins mal ou moins vite que les voix de journalistes.
Oui, c'est un peu le constat qu'on faisait. Est-ce que les journalistes, finalement, ils ont un objectif, ils ont une façon de formuler les choses, alors que le témoignage va être, de l'anonyme va être spontané, avec ses accents, son phrasé. Et du coup, c'est la proximité, on l'a très très vite avec un témoignage anonyme.
Il y a un gros travail de restauration aussi qui est fait par les équipes de oui. l'INA. C'est une grosse partie de votre travail. Il y a des techniciens qui travaillent à l'INA parce que les fichiers que vous récupérez ou les bobines ne sont pas forcément de très bonne qualité. J'aimerais qu'on écoute un extrait. Donc c'est un peu une avant-première parce que c'est la vie d'avant qui n'est pas encore sortie, qui sortira pour Halloween. Donc c'est l'extrait numéro 1. Vous allez entendre la version au début qui n'est pas restaurée et ensuite le travail de restauration qui a été fait.
Eh bien, il y a une coutume, pour les enfants surtout, il y a une coutume que j'ai trouvée très amusante. C'est un jour en novembre, je crois, je ne me rappelle plus exactement, où c'est le jour des enfants en Amérique. Et tous les enfants, à partir du moment où ils commencent à aller à l'école, peut-être un peu avant, jusqu'à l'âge de 10-12 ans, ce jour-là s'habillent en costumes les plus variés, fait avec n'importe quoi. Et leurs costumes favoris, évidemment, sont des costumes de cow-boy pour les garçons et des costumes de sorcières pour les filles. Et alors, ils se font des lanternes avec une citrouille qui est vidée et dans laquelle ils découpent des yeux, une grande bouche et un nez. Ils mettent une bougie là-dedans. Et ils se promènent le soir de maison en maison à tirer les sonnettes et ils disent « trick or treat ».
Ça veut dire quoi ?
Ce qui veut dire « si vous ne me donnez pas quelque chose, je vais vous jouer un tour ». Alors évidemment, tout le monde est préparé, comme c'est une coutume qui existe depuis des années. Et toutes les maîtresses de maison ont acheté des provisions de bonbons et de sucreries. Et chaque fois que les enfants sonnent à la porte, on prend l'air très effrayé de leurs menaces. Et puis on se précipite et on leur donne des bonbons ou des gâteaux secs. Ils ont chacun leur petit sac en papier.
Ils doivent être malades le lendemain,
non ? Oh, évidemment. Ils ne vont jamais à l'école le lendemain parce qu'ils sont tous malades.
C'est facile d'enlever le petit grésillement, là. Vous avez un petit filtre magique et hop, on entend bien.
On a des experts magiques, surtout. Oui, le grésillement, c'est souvent un symptôme d'un son issu d'un disque 78 tours. Et donc, effectivement, on a un corps de métier à l'INA qui est très important justement la restauration des supports vinyles. Ce sont les restaurateurs son, on a 4 à l'INA, qui travaillent aussi bien pour des projets éditoriaux de la direction éditoriale, mais aussi pour Radio France, pour des licences aussi de musique que l'INA fait. Donc ce sont des techniciens hors pair qui utilisent différents logiciels pour enlever ce petit grésillement. Alors eux, ils estiment, à l'écoute de l'archive, enfin l'archive numérisée, s'il faut revenir au support d'origine pour améliorer la restauration. Donc,
Parce que ça a été numérisé comme ça.
Oui, ça a été numérisé.
Ensuite, soit on peut travailler sur le fichier numérique, soit revenir à la bobine.
Exactement.
Il faut faire gaffe aussi. Il ne faut pas trahir non plus.
Bah, ouais.
C'est-à-dire que le premier grésillement qu'on entend, il perturbe complètement l'écoute. Enfin, si je diffuse le podcast en tant que tel aujourd'hui sur une plateforme d'écoute, c'est pénalisant et c'est impossible de suivre. On pourrait faire plus sur la voix de cette personne qui raconte Halloween. On pourrait enlever le côté un peu caverneux, on pourrait aller plus loin, bien sûr. Mais en même temps, si je reviens à la première question, ce ne sera plus vraiment une archive si on trahit, si on travestit ce qui est fait. Donc il faut faire gaffe à ce qu'on doit faire pour le confort d'écoute, sans aller trop loin. Je complète le filtre magique par une interrogation aussi sur ne pas aller trop loin, ne pas travestir, garder la patine de l'archive sans travestir.
Est-ce que La Vie d'avant, c'est un podcast ? Ou est-ce que c'est une archive ? Ouais. Parce que c'est pas éditorialisé, en fait, vous livrez une parole, alors faites un choix dans ce que vous allez proposer à l'auditeur.
Je repensais à la question qui était posée tout à l'heure à Léa sur la question philosophique. Je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'un podcast ?
C'est diffusé sur un flux RSS.
Et blague à part, là, on s'est vraiment placé en situation de diffuseur à chercher une cohérence, chercher une contextualisation aussi. Il était pour nous hyper important que l'archive soit introduite par une vraie voix, d'une vraie journaliste,
Clara.
Chacun de nos podcasts aujourd'hui est introduit de cette manière-là sur ceux qu'on diffuse de manière très, très régulière. Je pense qu'à partir du moment où c'est une diffusion qui est pensée, qui est recréée à partir de corpus qui sont diverses, en cherchant à créer une unité, oui, j'ai pas trop de mal à pouvoir définir ça comme étant un podcast. La contextualisation que l'on en fait me semble tout à fait justifier cela. Après, les définitions sont ce qu'on en fait.
Vous avez parlé de Zoé Marcheret, qui est, en fait, c'est elle qui a piloté toute l'offre et qui a lancé cette offre à l'INA. Au moment du lancement, elle a écrit, donc ces podcasts, ce sont des archives audio restaurées, toujours remises dans leur contexte pour susciter de l'étonnement, de l'émotion et créer la réflexion. Pourquoi c'est important toujours de remettre dans le contexte ?
D'abord, je vous scoop, c'est les premiers mots de notre ligne édito interne. Notre document de ligne édito interne, c'est quoi l'INA quand on s'adresse au grand public, quand on diffuse du contenu au grand public? C'est apporter un supplément de contexte. Supplément de contexte sur l'actualité, supplément de contexte sur l'air du temps, en fonction des supports sur lesquels on va travailler. Quand on diffuse un contenu en réaction à une actualité immédiate, on se définit comme le média du supplément de contexte. Donc je martèle souvent ce terme-là, mais ça dit des choses là-dessus. Dans notre aujourd'hui, Mathilde a parlé de toutes nos fonctions historiques depuis une grosse dizaine d'années maintenant. L'INA est aussi un média qui touche directement des audiences sur des réseaux sociaux, sur des podcasts, sur des plateformes vidéo. On en parlait tout à l'heure.
Ça, c'est dans votre mission de service public, en fait. Vous devez rendre accessibles ou les diffuser au grand public,
absolument,
ces archives.
En fait, il y a un terme qui nous est... c'est la valorisation. Ça veut dire quoi, valorisation ? À certains moments, ça va vouloir dire vendre des droits et tirer des revenus de nos archives. Valorisation, c'est aussi diffusion auprès du grand public. Moi, je suis ravi que pour des jeunes générations, l'INA soit un compte Instagram ou un corner sur l'application Radio France ou sur Spotify. On a cette action de vraiment diffuser en grand public nos contenus comme média patrimonial de l'audiovisuel public. Voilà la manière dont on se positionne aujourd'hui, et les podcasts en font complètement partie.
Est-ce que vous diriez que ce qui a guidé la construction de cette offre podcast à l'INA, c'est d'éclairer le présent à la lumière du passé ? On pourrait le dire comme ça ?
Oui, tout à fait. C'est déjà une politique qu'on avait sur les réseaux sociaux et sur les offres grand public par ailleurs. Et on a une telle manne, on a tellement d'archives encore à découvrir, redécouvrir, et qui matchent super bien avec la société actuelle, ou en tout cas qui permet aussi de prendre du recul, que ce sera infini, toutes les possibilités d'éditorialiser les fonds radio.
Et vous diriez que ça manquait dans l'offre de podcast actuelle, cette prise de recul ?
On n'a pas d'exclusivité sur l'archive, et c'est hyper important. Dans la salle, j'imagine qu'il y a des auteurs, des producteurs. Les archives de l'INA sont utilisables dans des conditions financières particulières et qui, normalement, sur le podcast...
Ils sont très chers, il faut quand même le dire.
Normalement, sur les fonds audio et sur l'accompagnement du monde du podcast, je pense qu'il y a eu un effort qui a été fait. Je le dis sans être directement à l'initiative, mais normalement, on essaie de ne pas bloquer un projet à cause du coût des archives, notamment dans le monde du podcast. On s'adapte aussi au mode de diffusion. On ne vend pas nos archives au même prix à un créateur de podcast qu'à Netflix.
Mais oui, là, pardon, mon intervention, pour le coup, était plus en tant qu'autrice d'autres podcasts où je peux avoir besoin d'avoir des archives. Et donc, c'est peut-être votre cas, en effet, ici. Et c'est quand même à la fois ce qui rend l'INA, enfin, l'offre de l'INA un trésor pour vous, parce que vous êtes... c'est génial. Et en même temps, je pense que c'est une question peut-être intéressante que moi, d'ailleurs, j'ai posé quand je suis arrivée. Pourquoi ça coûte cher ? Alors que c'est le service public. Je pense que c'est une question que les gens se pose et en fait il y a des réponses très ça se justifie complètement.
Et j'adorerais dire que Lina garde cet argent, en l'occurrence une grande partie de ce qui est payé c'est tout simplement la chaîne des droits qui s'exerce,
voilà,
et donc des reversements
toujours,
qui vont être faits aux auteurs originaux. Il y a aussi évidemment une partie du travail de stockage qui est financé aussi par de la vente,
la restauration.
Nous sommes la restauration. Et en fait, on est dans l'ensemble de l'audiovisuel public, on est le média audiovisuel public qui doit aller chercher le plus de pourcentage de son financement sur des ressources propres. Ça fait partie du deal qui est fait avec l'État. L'INA n'arriverait pas à conserver si toutes les archives étaient absolument gratuites pour tous. Normalement, il y a cette attention qui est portée à pouvoir ne pas être bloquant. Après ça, par exemple, on déborde complètement d'INA Podcast, mais c'est absolument pas grave. On fait assez peu on fait peu de copro sur les podcasts qui pourraient être une manière de contourner ça. Mais aujourd'hui, tout simplement, on n'aurait pas le temps de les suivre complètement. On fait des copro dans les documentaires sur le monde de podcast vraiment. Je crois qu'on en a fait une en tout et pour tout et qui était assez exceptionnelle là-dessus. Mais néanmoins, quand même, il y a une attention normale qui doit être portée là-dessus. Donc, on n'a pas le monopole de l'archive et régulièrement, on s'est pris des coups de pied aux fesses. Et tant mieux.
Par qui ?
Il y a un moment où aucun problème. Monde pré-confinement, on avait décidé d'accélérer sur le podcast par nous-mêmes à ce moment-là, et on l'avait fait pour une raison simple, c'est que Brut lançait son offre sur Spotify avec Paradiso, et qui est très bien faite, et que dans l'un des podcasts, il y avait une fois par semaine un épisode qui était une archive très simple, qui était globalement un des succès précédent de l'INA sur les réseaux sociaux, mais qui était accessible à Brut, et tant mieux. Et nous, ça a accéléré le fait de se dire, en fait, cette question du podcast, il faut qu'on s'en saisisse, et il faut qu'on s'en saisisse aussi comme diffuseur, parce que ce que l'on fait est un écho et fonctionne. Donc, allons-y. Et ça, c'est hyper important dans de temps en temps aussi, d'être secoué par ce qui se passe dans un écosystème. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et je ne sais plus pourquoi je me suis dit qu'on se prenait des... j'en suis venu à dire...
Je te posais la question, est-ce que ça manquait dans l'offre actuelle, cette prise de recul
Merci. Et clairement, aujourd'hui, il n'y a pas d'offre qui puisse être spécialisée sur cette question de la profondeur. C'est des choses qui sont faites avec parcimonie ou sans être le point essentiel de certains catalogues. Je pense que à partir du moment où nous on arrive à en faire un élément continu, ça permet d'avoir quelque chose qui a une valeur supplémentaire, mais non exclusive sur l'apport de la profondeur, et c'est hyper important là-dessus.
Après, ce qui est intéressant, c'est que dans la façon dont vous avez construit votre offre, en fait, ça reprend des grands hits ou des choses qui fonctionnent très bien dans le podcast, donc les témoignages d'anonymes, mais en archive, et le true crime aussi, parce que je voudrais qu'on écoute un extrait des Archives du Crime, qui est un autre podcast de l'INA, où là, c'est un autre genre qui fonctionne très bien dans le podcast, quoi. Et donc, c'est l'extrait numéro 3.
Affaire Landru, épisode 1. À la recherche de Célestine Buisson. Elle est veuve et souhaite refaire sa vie. Par le biais d'une petite annonce, Célestine Buisson rencontre l'homme idéal, un certain Henri Frémier, qui lui promet mariage et sécurité. Durant l'été 1915, elle présente son fiancé à un couple d'amis, les Fouillards, avant de disparaître mystérieusement. Inquiet, sa sœur et ses amis se lancent à sa recherche, sans résultat. Jusqu'à ce jour d'avril 1919, où Madame Fouillard aperçoit par hasard le mystérieux fiancé avec une autre femme, dans une boutique de la rue de Rivoli. Cette rencontre marque le tournant de l'enquête. Monsieur Fouillard la raconte à la radio en 1956. Écoutez-le.
Alors, Monsieur Fouillard, je voudrais que vous nous expliquiez très complètement cette histoire.
Le mieux que je pourrais. C'était en 1915, pendant la guerre, j'étais soldat. Et Madame Buisson, une de ses victimes, était une amie intime à nous, à ma belle-sœur et à moi-même. Madame Buisson nous prévient qu'elle viendrait présenter son futur mari, parce que c'était une veuve, elle viendrait présenter son futur mari à nous. Donc c'était au mois de juillet peut-être, ou 1915, il faisait chaud. Nous avons pris un petit...
Apéritif,
si vous voulez.
C'est un acteur direct de l'affaire qui parle. Quand on entend cette voix, c'est complètement dingue.
C'est pas... l'affaire Landru.
Exact, pardon,
un tueur en série,
aucune mise en contexte, aucune bah des alors... annonces.
Et donc c'est l'affaire Landru, qui est un tueur en série, qui tue des femmes, entre 1915 et 1919. Voilà.
Et en fait, cette affaire, elle est connue par cœur. Elle a été déclinée en d'innombrables...
podcast aussi, dans les voies du crime d'RTL, j'ai regardé, sans Monsieur Fouillard.
Mais sans Monsieur Fouillard. Et en fait, c'est ça qui est complètement dingue. C'est d'avoir cet apport-là d'un témoin direct. Donc, on a fait dans les archives du crime, qui n'est pas hebdomadaire, hein, c'est une grosse prod, donc on en a fait deux pour l'instant. je reprends, puisque tout à l'heure tu disais que c'était hebdomadaire. On a fait l'affaire Landru, on a mis en ligne au cœur de l'été l'affaire Marie Bénard, qui est absolument passionnante, qui cette fois n'est pas racontée par des témoins directs, mais par un chroniqueur judiciaire, qui du coup raconte aussi, Marie Bénard était accusée de l'emploi... Pardon, encore une fois, je me suis lancé dedans sans dire ce qu'il en est. Accusée d'avoir empoisonné 12 personnes, dont son mari, et procès qui a été en appel, en assise, etc., qui a fini par l'acquitter, mais qui a duré plus de 10 ans. Et cette fois, il est raconté par un chroniqueur judiciaire qui raconte du coup l'emballement médiatique autour de cette affaire, qui raconte comment lui a vécu ça. Et c'est du coup encore... Enfin, ça, c'est aussi une touche très Ina que de réussir à aller raconter cet emballement médiatique là. Et donc à chaque fois, en fait, sur les podcasts de True Crime qu'on a développés, il y a cette patte avec l'anonyme ou le témoin qu'on va pouvoir qu'on a en stock et qu'on va pouvoir convoquer, ou un regard particulier qui va permettre de raconter l'histoire un peu différemment aussi.
Et à ça, vous ajoutez une voix de narration pour remettre en contexte et la remettre aussi en récit. On n'a plus beaucoup de temps, je voulais juste quand même évoquer le fait que vous ayez un dernier volet, qui sont les podcasts de fiction, qui sont des dramatiques radio, en fait, qui étaient un genre important dans les années 50-60. Donc on peut réécouter les aventures d'Arsène Lupin, de Sherlock Holmes, les maîtres du mystère. Et là, c'est vraiment un travail de restauration qui a été fait. Vous touchez rien. Et ça cartonne, en fait. Et c'est ça, je voulais finir là-dessus, c'est que ces podcasts, ils fonctionnent très bien. Et ça peut paraître étonnant, en fait, à l'heure où on peut voir Arsène Lupin sur Netflix, pourquoi est-ce qu'on irait réécouter la dramatique des années 60, quoi. À votre avis, pourquoi ça fonctionne ?
Parce qu'il y a aussi un casting royal, une écriture très bonne et une mise en onde parfaite aussi. Donc cette qualité-là, elle ne vieillit pas. Et c'est vrai qu'il y a peu d'interventions en termes de restauration sonore aussi sur ces fichiers. Et c'est des histoires intemporelles et on peut écouter partout. Donc,
On mettra en petite annonce, on mettra en ligne au mois de novembre la fiction qui s'appelle Bon baiser de partout de Pierre Dac. 700 épisodes, je crois. Pas les 700 d'un coup. On n'a pas restauré les 700 encore, donc je ne sais pas jusqu'où ça va nous amener. J'ai pas osé faire le calcul. Qui est une espèce de plongée loufoque dans le monde du renseignement. Quand vous
de OSS 117.
Exactement, ouais. Exactement. Et entre, ouais, c'est entre OSS 117 et le Bureau des légendes, mais version loufoque, voilà. Et qui plonge dans un univers, en fait. Ça, en fait, la fiction, elle apporte ça. Elle permet d'explorer dans tous ses aspects un univers donné. Ça, c'est ce qui fonctionne encore aujourd'hui. De toute façon, si vous prenez, je sais pas moi, on s'en parlait, mais une fiction comme 57 rue de Varennes, c'est quelque chose qui plonge dans l'univers de la politique. Bah, Bon baiser de partout va plonger alors dans un univers loufoque, dans cet espace de monde du renseignement qui est assez délicieux à écouter.
Peut-être on peut finir par dire que ces podcasts, ils cartonnent. Tu disais tout à l'heure que vous aviez un deal avec l'État pour gagner de l'argent. Bah, vous gagnez de l'argent avec vos podcasts.
On gagne un peu d'argent avec les podcasts qui sont monétisés. Ça veut dire qu'il y a de la pub dedans. Pas dans tous.
Pas dedans.
Et pas dans Mémoire de la Shoah, par exemple, qui pourtant est un des podcasts qui a été le plus écouté. Donc là, on fait
400 000 écoutes.
Exactement. Donc on fait vraiment le choix à certains moments de ne pas puber. À d'autres, on le fait. Les revenus ne couvrent pas nos frais là-dessus, mais c'était important pour nous, bah aussi au regard de ce que je disais précédemment, dans notre mission d'exploitation des fonds, de générer aussi des reversements à leurs auteurs originaux. Il faut bien qu'il y ait un modèle économique autour de ça. Et oui, donc pour la petite histoire, on a lancé cette offre INA Podcast en février en se disant, bah voilà, ce que je racontais sur, on a vu que ça se passait ailleurs et on s'est dit qu'il était vraiment temps d'y aller. Ça faisait suite aussi à une première expérience où on était allé dans de l'accompagnement de production de podcasts. On avait lancé toute une expérience qui s'appelait Inalab Podcast en 2019, qui avait été largement présentée ici, qui était là le souhait d'accompagner en production. Et donc avec quelque chose qui n'avait rien à voir dans ce que ça nécessitait, et clairement qu'on aurait pu continuer si vraiment il y avait un marché de diffusion et de vente important de podcasts, ce qui n'est pas le cas. Et donc après ça, nous on l'a plutôt fait par nous-mêmes la plupart du temps. On s'était donné cet objectif d'avoir 1 million d'écoutes en 1 an.
Et alors ?
On en est à 4 millions en 6 mois, donc ce qui nous fait nous dire qu'il faut accélérer là-dedans, et on se réjouit de toucher un public large là-dessus aussi, évidemment.
Si vous n'avez rien à ajouter, on se laisse 5 minutes peut-être pour des questions, si vous avez des questions, vous, dans le public. Il n'y a pas de questions. Bon, du coup, je vous remercie. À moins que vous vouliez dire un mot de la fin, non, une annonce. Tu as déjà fait des annonces sur les prochaines fictions.
Les archives du crime, c'est Ranucci le prochain, en décembre, l'affaire Ranucci.
Ah, je sais par quoi on pourrait finir. On pourrait finir par le dernier extrait, qui est le générique des Maîtres du mystère, qui est assez savoureux. Donc c'est l'extrait numéro 5. C'est le générique de fin.
Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le crime de Lord Arthur Saville, drame radiophonique de Jeanine Ray-Lambert, d'après une nouvelle d'Oscar Wilde, avec Michel Bouquet dans le rôle de Lord Arthur. Et par ordre d'entrée en onde, Martine Ferrière, Rosy Vart, Jean Ozen, Anne Capril, Yves Duchâteau, Charlotte Clasis, Raymond Pellissier, Laurence Weber, Marcel Lestan, Lucienne Givry, André Rebaz et Gaëtan Jor. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son, Madeleine Sola. Bruitage, Jean-René Niclès. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard.
Ben voilà, on finira là-dessus. C'est des longs génériques. Merci beaucoup.
Quelle merveilleuse réception, Lady Windermere. 6 ministres, avec toute leur décoration. Les plus jolies femmes de Londres dans leurs toilettes les plus chics. Les prédicateurs en vogue. Et les radicaux les plus violents.